Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, je vous raconte comment Marie Deroubet, 58 ans, décide en 2011 de se faire euthanasier en Belgique.
Évidemment, j'ai peur de mourir comme tout le monde. Je sais que je vais mourir, mais j'ai surtout peur de souffrir. Mais à un moment donné, on ne pourra pas aller au-delà et je serai obligée de prendre une décision pour justement éviter les souffrances. Parce que je ne veux pas souffrir.
Quand elle prononce ces mots, le 14 octobre 2011, devant les caméras de l'émission 7 à 8 de TF1, Marie Deroubet sait qu'elle est condamnée. Elle a 58 ans, on lui a diagnostiqué plusieurs tumeurs cancéreuses au cerveau. Le médecin lui a dit que c'était incurable. Elle ne veut pas finir comme un légume. Elle veut s'éviter toutes ces épreuves et les éviter à sa famille. Elle a donc choisi l'euthanasie. Et pourtant, il y a encore 6 mois, elle dévorait la vie, Marie. Elle avait vaincu un premier cancer, un cancer du poumon. Son pneumologue lui avait dit « Madame Deroubet, votre poumon est parfait. Vous êtes complètement guérie. Revenez l'année prochaine. » Alors elle était repartie comme en 40. Et c'est en avril que tout a basculé. Son mari est en voyage d'affaires. Elle organise un dîner entre filles chez elle. Il y a quelques semaines, elle s'est mise au théâtre. Alors elle est là, debout face à ses copines, et elle leur joue une petite scène de Fedot, et son ami Michel lui donne la réplique. Et tout d'un coup, elle sent que sa jambe droite se dérobe, et vlan, elle tombe en avant. Ses copines se précipitent pour la relever.
« Ça va ? Tout va bien, Marie ?»«
Oui, oui, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. »«
T'inquiète pas, va, ça nous arrive à toutes. On va pas vers le mieux, hein ?»
Et elles rigolent toutes ensemble. Et elles enchaînent. Mais dans les jours qui suivent, c'est bizarre. Par exemple, quand elle monte un escalier, son pied accroche toutes les marches. Elle a du mal à contrôler sa jambe. Et puis il n'y a pas que son pied qui dégoise. Hein. Sa main aussi se recroqueville, chaque jour un peu plus. Alors elle prend rendez-vous avec son rhumatologue. Il ne trouve rien. Mais il l'envoie chez un neurologue qui lui prescrit une IRM du cerveau. Et là, c'est la tuile. Sur l'IRM, le radiologue voit 1, 2, 3 tâches. Et puis en cherchant un peu, 4, 5, 6 tâches au total. 6 tumeurs cancéreuses au cerveau.
Je ne vais pas vous mentir, madame. Des métastases de cette taille... On ne peut pas opérer. Je suis désolé. Alors, c'est fini ? C'est fini pour moi ? Eh bien, vous savez quoi ? Je vais tirer le rideau avant que le spectacle soit terminé. Vous savez quoi ? Je vais me faire euthanasier en Belgique.
Mais non, vous n'en êtes pas encore là. J'ai une patiente qui a tenu 9 ans avec des métastases au cerveau. Quand il dit qu'elle n'en est pas encore là, le neurologue pense chimiothérapie, il pense rayon. Mais pour Marie, c'est non, c'est clair dans sa tête. Dans son livre, elle écrit « En France, il faut souffrir jusqu'au bout. Tu enfanteras dans la douleur, dit le Tout-Puissant. Il n'a jamais dit que je sache, tu mourras dans la douleur. Je n'ai pas honte de le dire. Je refuse la souffrance. » Quand on est replié sur son mal, on ne vit plus. Depuis son cancer au poumon, Marie est inscrite à l'Association belge pour le droit de mourir dans la dignité.
Et en fait, elle m'en a parlé depuis de nombreuses années, mais en me disant, tu sais, moi un jour, si vraiment ça va plus du tout, je me vois pas du tout agoniser sous morphine avec des tuyaux, nourri artificiellement en étant drogué. Mais c'est des sujets qu'on n'a pas envie spontanément, je lui disais oui, oui, très bien. Et puis je me disais, bah, pourvu que ça n'arrive jamais. Alors malheureusement, c'est revenu pour elle. On a immédiatement compris qu'elle n'avait aucune chance de s'en tirer. Et là, elle m'a dit, bon, bah, tu te souviens de ce qu'on s'est dit, là, maintenant, il faut m'aider.
L'aider, mais l'aider comment ?
Au début, Marie pense au suicide assisté qui est autorisé en Suisse. La différence avec l'euthanasie, c'est que le patient prend lui-même le breuvage qui l'envoie ad patres. Et puis finalement, elle y renonce et elle choisit l'euthanasie et donc la Belgique où le geste est réalisé par un médecin.
Au début, on a tâtonné aussi, hein, parce qu'en Belgique, certes, la loi existe, mais c'est pas pratiqué comme ça tous les matins pour tout le monde. Il y a des conditions extrêmement strictes, les médecins doivent être volontaires, donc c'est pareil. Vous arrivez là, on commence par vous dire « Ah bon, mais alors, vous êtes qui, vous? Vous êtes français? Ah bon? Vous avez quoi? Bah attendez, on va voir, on va vous examiner, on va faire les examens. » Donc, évidemment, c'est normal d'ailleurs, hein. Vous êtes pris dans le système médical belge, qui lui a une échappatoire. Voilà, c'est ça la différence. Mais tous les médecins belges, d'ailleurs, ne pratiquent pas ces actes non plus.
Il faut donc trouver un médecin et le convaincre d'euthanasier une Française. Les médecins belges, c'est normal, ne veulent pas être considérés comme les liquidateurs de toute l'Europe. Et c'est le début d'un long processus. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Marie et son mari Bertrand font la route tous les 15 jours. C'est qu'en Belgique, où l'euthanasie est légale, on ne se fait pas euthanasier comme ça. Il faut monter un dossier et pour commencer, trouver un premier médecin. Ce sera un médecin de l'Institut Bordier de Bruxelles, qui comprend tout de suite. Je devine, bien entendu, la raison pour laquelle vous venez me voir, madame. On ne va pas faire semblant, n'est-ce pas ? Avant tout, il faut qu'on fasse un bilan complet de votre état de santé. Il faut que vous rencontriez des spécialistes. Si vous demandez l'euthanasie, il faut que vous soyez informé de toutes les possibilités de traitement, quitte à ce que vous les refusiez. D'accord ? On ne peut pas transiger sur ce point. Fin juin 2011, 2 mois après le diagnostic, à force d'aller-retour, le dossier est complet. Et heureusement, parce que Marie a de plus en plus mal. Sa jambe droite est de plus en plus faible, son pied traîne au sol, son bras est de plus en plus atrophié. Et puis il y a les vertiges, les maux de tête et ces fichus bourdonnements dans ses oreilles. Reste à trouver maintenant le médecin qui acceptera de l'euthanasier. Évidemment, ce ne sera pas le cancérologue qui a monté tout son dossier, mais c'est lui qui envoie Marie vers un généraliste qui fait ça. Des euthanasies. Nous sommes au milieu de l'été 2011, 3 mois après le diagnostic. C'est son dernier été. Il lui reste à dire adieu à tous ceux qu'elle aime. Cet été 2011, c'est le dernier été de Marie. Elle sait qu'elle va partir bientôt. Alors elle veut voir une dernière fois tous ceux qu'elle aime. Et au moment de partir, elle leur dit « Vous savez, on ne se reverra plus. » Et à chaque fois, ça se termine par des larmes, bien sûr. C'est difficile, en vérité, de profiter de la vie quand on a décidé de mourir. Mais il y a des choses qu'elle veut absolument faire avant de partir. Par exemple, le petit manoir en ruine qu'elle a acheté dans Lyon avec Bertrand. Elle veut absolument finir les plans des dépendances et prévoir la décoration. Marie veut aussi que tout soit prêt pour le jour où. Elle choisit son cercueil dans un magasin de pompes funèbres de Belgique. Il sera blanc, capitonné ivoire. Elle réserve aussi le funérarium et elle fait préparer sa tombe dans le parc de leur manoir de Lyon. Quand arrive la fin de l'été, ça devient très difficile. Des maux de crâne très violents, dès le réveil, qui peuvent durer des heures, le bruit qu'elle ne supporte plus, ses muscles qui s'atrophient, et puis son odorat qui se déglingue. Tout sent mauvais, mélange de terre brûlée et d'ammoniac. Sans compter ses crises d'épilepsie de plus en plus nombreuses et les doses de cortisone qu'il faut augmenter sans cesse.
Vous savez, la progression des métastases, ça grossit tous les mois, ça grossit, donc ça peut aller très vite. Donc voilà, dès demain, je peux organiser mon euthanasie.
Désormais, Marie a besoin de Bertrand pour se laver, pour s'habiller, pour se chausser. Mais bouffie par la cortisone, elle se maquille et se coiffe toujours elle-même.
Vous voyez, je suis coiffée, je suis en fin de vie, mais je m'occupe de moi. Donc, je pense que mourir dans la dignité vis-à-vis de ses proches, en étant toujours bien, c'est aussi très important pour leur laisser un souvenir, un bon souvenir.
Trois jours après cette interview accordée à l'émission 7 à 8 de TF1 et qu'il est convenu de diffuser après sa mort, le 17 octobre, 4 mois après le diagnostic, Marie se réveille en vomissant. C'est la première fois.
C'est frappant de voir que dans les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi, elle s'est effondrée complètement. Elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus rien faire. Rien ne soulageait ses maux de tête. D'ailleurs, elle me disait, c'est pas des maux de tête, c'est un train que j'ai dans la tête. J'ai juste envie que tout s'arrête, c'est insupportable.
Marie décide alors de prendre la route de la Belgique et elle l'annonce à Bertrand.
Bertrand, je suis très mal. Je sens que c'est la fin. Je peux plus marcher, je peux plus manger, je peux plus boire. Alors mon amour, je veux partir en Belgique. Je veux franchir la frontière. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Marie, tu es la seule à pouvoir décider.
Bertrand installe Marie dans la voiture, en début d'après-midi, avec une bassine au cas où elle aurait envie de vomir. Ils arrivent à Bruxelles en début de soirée. Et tout de suite, ils appellent le médecin. Mais ils n'arrivent pas seuls. La loi belge impose 2 médecins. Ils regardent tous les deux le dossier médical. Il est indiscutable.
Madame, êtes-vous certaine de vouloir continuer ? Oui.
Le médecin explique qu'il doit maintenant se procurer le produit. Un généraliste n'a pas comme ça sous la main de quoi tuer quelqu'un. Et avant de partir, il lui dit :
si vous vous sentez mieux et que vous souhaitez rentrer en France, rentrez.
Mais ils ne rentreront pas.
C'est épouvantable, évidemment. C'est épouvantable. Le médecin nous avait dit, on lui avait dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il nous avait dit, le plus important, c'est de vous dire tout ce que vous avez à vous dire. Voilà. Eh bien, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire.
Pendant 2 jours, Marie et Bertrand parlent la nuit et le jour.
Bertrand, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Je fais ça maintenant ou non ?
Tu me demandes, je préfère que tu restes, bien sûr. Même mal, je m'occupais de toi. Maintenant, c'est très égoïste de dire ça. Je trouve que c'est la personne concernée qui doit pouvoir choisir à quel moment c'est plus supportable, même si elle sait qu'elle fait beaucoup de peine. Bien sûr, ma femme savait qu'elle ferait beaucoup de malheur autour d'elle. Mais elle me disait, moi j'en peux plus, c'est insupportable, et de toute façon c'est une question de quelques jours, de quelques semaines.
Le soir, le téléphone sonne. C'est le médecin. Le produit sera livré demain. Et il viendra après ses consultations de l'après-midi. Juste avant qu'il n'arrive, Bertrand et Marie s'échangent des mèches de cheveux. C'est leur dernier rituel. À 17h, le médecin entre accompagné de son collègue.
Bonjour Marie. Êtes-vous toujours décidée à mourir ? Oh que oui. Oui, je n'en peux plus.
C'est un supplice absolu. C'est un martyr absolu. Elle n'en pouvait plus. C'était à pleurer, à se taper la tête sur le mur.
Marie s'habille. Elle a choisi un t-shirt noir, une veste de tailleur noire, un pantalon noir et des chaussures à talons. Et elle s'est maquillée.
Docteur, où est-ce que je me mets ? Vous le souhaitez.
Marie s'allonge sur un lit. Le médecin lui explique pour la 1000e fois ce qu'il va faire. Une première piqûre pour l'endormir et une seconde pour arrêter son cœur. Et jusqu'au bout, il lui répète qu'elle peut tout arrêter. Mais non, elle serre très fort, la main de Bertrand. Le médecin fait la première piqûre et Marie s'endort d'un seul coup, exactement comme elle le voulait. Et puis, il fait la 2e piqûre.
Allô ? Ça Ça y est. Marie est partie. Elle est partie sereinement.
Et Bertrand reste toute la nuit auprès d'elle. Et le lendemain, il reprend la route pour Paris. Cette fois, il est seul.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.